Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Pla au micro, Maurice Bolduc à la technique. Aujourd'hui, on a une journée bien chargée. La chroniqueuse de sport, Myriam Larage, qui sera avec nous à partir de 17h. Bien sûr, en première partie d'émission. Et en deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir Michèle Asselin, la directrice générale de l'Association des organismes de coopération internationale, qui sera avec nous pour parler des journées québécoises de la solidarité internationale. C'est tout au long du mois de novembre, bien sûr. Allez, comme d'habitude, voilà, on part tout de suite en musique avec Wazi Muyendo, Diena.
Je suis l'être infidèle qui mendie l'amour. Désolée de ne pas l'avoir su toujours. Entre l'impur et la variée, c'est dans le regard de l'autre que je me suis souillée. C'est dans les rues de mes villes que j'ai appris à injurier. Outrager le juste, vénérer l'indigne. Juger ceux qui s'indignent, condamner la personne bénigne. Lire entre les lignes des mains de ceux qui n'ont pas encore fauté, pour essayer de racheter mon honneur ôté. D'ailleurs, je ne compte pas le changer. J'apprendrai aux prochains qui accosteront sur ce bateau qu'ailleurs on nous appelle tiers-monde. Que pour éviter l'immonde, l'on nomme pays en voie de développement. Si le Très-Haut me demandait où je voulais renaître un jour, je choisirais le Congo. Celui-là même qui rime avec fléau. Je suis fille amoureuse de ces terres. Fils fier d'être propriétaire des richesses d'ici et d'ailleurs. J'ai adopté la culture de l'autre et c'est fièrement que je suis sapeur. Je suis héritière de la beauté Congo, incitée à me dépigmenter la peau. Capella, Djungulu. Mais par-dessus tout, mais à moi, mon Angolo. C'est au lampadeur que je vois clair. C'est au lampadeur que je vois clair. C'est au lampadeur que je vois clair. C'est au lampadeur que je vois clair.
C'était Wazi Muyendo Niega. Voilà. Bon, elle est déjà là. Elle m'entend. Respirer, parler en même temps. Je parle de Myriam Larache. On va être bombardé de nouvelles sportives.
Oui.
Bonjour Myriam. Comment vas-tu?
Bon après-midi, Fulgence, à tous nos fidèles auditeurs.
Ah oui.
Cette journée pluvieuse.
Oui. Un temps de canard.
un thon de canard et un froid de canard.
Voilà.
Et les canards, ça glisse sur leur dos.
Ah, ils aiment ça.
Oui, ils aiment ça.
Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé comme repas sportif?
Oui, alors il y a des préoccupations et il y a des résultats et des bonnes nouvelles aussi. Alors, on va commencer par le hockey d'abord, comme toujours. Je m'en débarrasse tout de suite parce que c'est tristouné.
Oui.
Le Canadien a signé mardi soir sa troisième défaite lors de la fin d'un voyage de 3 jours à l'extérieur. Les Rangers de New York les ont accueillis au Madison Square Garden pour les vaincre avec une marque finale de 3-2. Ce matin, à l'entraînement, le coach Dominique Ducharme a décidé d'amener quelques changements. Il faut s'y attendre. À chaque semaine, il essaie de bouger les cartes, de changer les cartes, de bouger les choses. Alors, il a rappelé, imagine-toi, le jeune attaquant Cole Caulfield, te rappelle, il y a 3 semaines, il l'avait renvoyé à son club d'école de Laval.
Oui,
Là, il l'a ramené pour jouer ce soir. En quelques heures, ce matin, il a pris cette décision. Il l'a rappelé pour jouer contre les Penguins de Pittsburgh ce soir au Centre Bell. Alors, parce que évidemment, quand il est allé à Laval, il a marqué plus de buts. Il s'est senti moins stressé, peut-être.
Il a eu plus de confiance là-bas, quoi. Oui.
Voilà. Alors, il l'a ramené pour
ce soir. Il était plus confiant, disons.
Exact. Mmh. Mais c'était le but, hein. Tu te rappelles, j'avais parlé de ça il y a 3 semaines en disant qu'ils expliquaient tous que le but était de lui redonner sa confiance pour qu'il puisse rebriller à nouveau.
Ouais. Alors, évoluer avec les grands.
Voilà. Ouais. Alors, pour ce qui est derrière le filet, ça sera Kaiden Primo, un deuxième match d'affilée contre les Pingouins. Rappelons quand même qu'il a stoppé 31 tirs mardi contre les Rangers malgré la défaite. Alors voilà, c'est ça pour ce qui concerne les Canadiens. Mais par contre, on va parler de Carey Price. Pourquoi?
Oui.
Alors, on va s'interroger sur quelque chose dont plusieurs analystes aussi le font. La dernière année du gardien Carey Price, il faut le noter quand même, a été riche en péripéties, on est d'accord?
Oui.
Il a porté à bout de bras son équipe jusqu'à effleurer la Coupe Stanley.
Oui.
Il s'est blessé gravement ensuite au genou, il a dû être opéré au mois de juillet.
Oui.
Et finalement, donc, il s'est contraint à demander de l'aide physique et mentale pour abus de substances et en plus l'annoncer publiquement. Alors, le Canadien étant presque fini, tu sais, Fulgence, c'est fini, on fera pas les séries, hein. À part la fée, si elle descend la fée avec une baguette magique pour changer tout.
Oui, parce qu'il ne revient pas à la Carey Price.
Voilà. Alors,
pas demain. S'il revient, ce n'est pas demain, là.
Et c'est ça, mais parce qu'ils disent depuis quand même 2 semaines que ça y est, il arrive des fois à la patinoire, il vient, il tourne, patati. Donc les gens ont vraiment hâte de le voir, mais ses espoirs à lui pour performer, briller, aller gagner quelque chose sont finis. Ça y est, le Canadien est en situation catastrophique et il ne fera pas les séries quasiment.
Oh là non, il ne va pas faire le bac tout seul quand même.
Exact. Alors donc l'espoir pour lui, qu'est-ce qui reste? C'est de se tourner vers les JO d'hiver de Pékin. Parce que nous avons une équipe performante de hockey qui chaque Olympique va briller, n'est-ce pas? Le Canada, il va toujours chercher presque une médaille là-bas.
Oui.
Alors, et
il est sélectionné, là? Il est de la sélection?
Mais c'est ça la question. Alors maintenant, son espoir, c'est de se tourner vers là. Mais écoute, il tarde à revenir, à se mettre en forme, à s'entraîner. Donc, ceux qui font la sélection d'équipe Canada, ils doivent se poser cette question parce que cet horizon positif peut être remis en question. Son manque d'entraînement, son manque de jeu vont peut-être déjouer sa participation à l'équipe Canada, mais certains analystes restent quand même confiants. Pourquoi? Parce que sa concurrence, qui est donc les autres gardiens canadiens, ne sont pas à la hauteur. Un Marc-André Fleury qui est pourtant excellent, il connaît des moments difficiles, on aurait pu le prendre, mais ça ne va pas très bien pour lui. Carter Hart et Mackenzie Blackwood sont bien jeunes, pas trop d'expérience, et Darcy Kuemper, c'est un coup de dé. C'est-à-dire que des fois, il joue bien, des fois, il ne joue pas bien. Donc, ça reste la confiance qu'on a, c'est Carey Price, c'est lui qui peut nous emmener et donc nous représenter au JO de Pékin. Alors tout le monde se pose des questions, tout le monde a hâte qu'il revienne. Et la date butoir, c'est la mi-janvier pour sélectionner une équipe. Alors pour les Jeux Olympiques, donc tout le monde espère et on espère que pour lui aussi, ça va se passer parce que c'est ça qu'il voit comme lumière.
Comme lumière. Mais Myriam, un sportiste ne peut pas toujours être au top au niveau, là, à toutes les saisons. Toutes les saisons. Ça se voit aussi chez ses collègues de tennis, là.
Oh oui.
À un moment donné,
mais
le corps.
Avant de passer au tennis, tu me fais un bon lien, là.
Oui.
Avant de passer au tennis, on va parler du soccer mondial.
Oui.
C'est la qualification mondiale cette semaine pour le Qatar 2022.
Oui.
Alors, plusieurs pays en Afrique, en Europe, cette semaine, plusieurs, et le Canada
oui.
jouer cette semaine. Est-ce que tu as vu le match mardi, Fulgence?
J'ai vu le résumé.
Quel... à aimer le football canadien, écoute.
Ah, oui, non, je m'habitue.
Écoute, le Canada affrontait le Mexique mardi soir à Edmonton.
Je n'en revenais pas.
Exact.
Je te laisse parler de ça. J'ai vu le résumé du match. Les deux buts, là, les trois buts, bon, les deux buts du Canada.
Oui. Mais écoute, surtout les conditions, Fulgence, c'était dans des températures sibériennes, il faisait moins 14 degrés, ils ont gratté le terrain.
Il y avait de la neige partout, hein?
Partout.
Ouais.
Et en 21 ans, ce qu'il faut surtout souligner, c'est enfin la victoire du Canada contre la 20e puissance mondiale. En 21 ans, ils n'ont jamais, jamais gagné le Mexique.
Oh oui, mais c'est pas la même formation. Tu as vu la tête de nos joueurs, là? Ils sont presque tous en Europe maintenant, presque.
Oui,
ils jouent presque tous en Europe.
On a le même profil, je vais dire, que l'équipe française.
Voilà, tu vois, ils sont presque tous en Europe.
Exact. Alors, le doublé de Kyle Lowry a donné toutes les motivations qu'il fallait pour l'équipe canadienne afin de garder le cap.
Il fallait pas le voir en train de se réjouir là. Il a fait le doublé.
Mais oui, puis en plus ça a fait un buzz. Hein. Figure-toi qu'ils sont allés célébrer la célébration du but. Ils sont allés tous se jeter sur une montagne de neige qui était au bord.
Oui, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais ils n'ont pas le droit.
Mais ils ont le droit, mais ils sont jetés sur la neige. Mais c'est ce qui fait l'originalité, comme quoi au Canada, ben on joue au soccer mais avec de la neige. Le jour même, en Afrique, ça jouait à plus 35.
Oui.
Ça se jette sur du gazon, mais nous, on se jette sur des montagnes de neige.
C'était pas Montréal, ça. Edmonton. De l'autre côté du pays.
Exact. Mais tu sais quoi? Ça frustrait énormément les Mexicains, parce que les Mexicains, bien sûr, eux, ils jouent dans un pays chaud, et qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui ont perdu leurs skills. Excusez-moi pour le mot anglais. Et... ils ont perdu leur qualité de jeu parce que ça glissait sur le terrain. Il y avait comme une petite couche glacée. Alors, c'était bien spécial. D'ailleurs, ils ont quand même donné une petite frousse aux Canadiens à la 89e minute.
Ah oui, ils ont marqué. Ils ont failli égaliser le deuxième but. Hein.
Exact. Ils ont marqué.
Alors, quelle est notre position maintenant? Quelle est la position de l'équipe nationale canadienne?
Ah, on est en première position. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 dernières minutes de prolongation ont été les plus longues vécues par un public.
J'ai pas voulu être à leur place. Hein.
Je sais pas si t'as vu le résumé, mais le stade était rempli à pleine capacité.
Oui.
Près de 50 000 spectateurs, émitouflés de tuques, de mitaines, mais ô combien énergique et encourageant.
Oui,
alors
oui.
Le sifflet de la fin du match a enclenché en passant des échauffourées, je ne sais pas si tu l'as vu.
Oui, oui.
Ils ont commencé, les deux équipes, à se poussailler et pas se pousser. Mmh. Alors, des Mexicains bien frustrés de la situation et des Canadiens bien arrogants aussi. Alors, c'est leur capitaine qui est, je ne sais pas si c'est le capitaine, mais le gardien, Bogdana, qui est venu calmer le jeu. Et au final, ben, ces deux victoires ont quand même placé le Canada en première position. Ils dépassent maintenant les États-Unis, seulement d'un petit point, il ne faut pas quand même trop se réjouir. Le Mexique a glissé en troisième position. Et le Panama aussi avec 14 points, lui et le Mexique en quatrième. Donc ces quatre équipes vont se battre parce que seulement trois...
Le Panama.
Oui, Panama à 14 points en ce moment.
Ok. Alors, okay. Il y a pas mal de noirs là-bas au Panama. Hein.
Oui.
De joueurs noirs.
Déjà allé. Ben, ils sont des latinos, oui.
Oui, latinos noirs, bien mélangés là.
Sombre, oui.
Ouais.
Alors sachez que seulement trois équipes vont pouvoir y aller et il reste encore six matchs à jouer à partir de janvier. Écoute, il ne faudra pas rater les matchs, vraiment là.
Alors, tu sais pourquoi quelqu'un me disait, mon voisin me disait peut-être que le stade était plein parce que c'est la ville où l'autre a été.
Alfonso. C'est sa ville, oui.
Voilà.
Oui.
Alors les gens
il
se sont déplacés.
De jouer là.
C'est oui, ça. Les gens se sont déplacés pour le voir évoluer quoi.
Tout à fait.
Alfonso du Bayern de Munich.
Exact.
Voilà.
Alors, donc le soccer du Canada devient excitant, Fulgence. Faut plus rater les matchs.
Ah non, mais quand j'ai vu la tête des joueurs, mais c'est pas l'équipe du Canada qu'on connaissait il y a quelques années. Là.
Ouais.
Non, d'ici quelques années, là, on risque de vraiment d'aller très loin.
Hein. Ah oui, on va commencer à retenir l'attention. Alors, au tennis maintenant.
Oui.
Sachez qu'hier soir, c'était la grande finale de saison du tennis. C'était au Mexique pour les dames. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit que ça a commencé avec les 8 meilleurs au monde.
Oui.
Et ben, c'est Garbiñe Muguruza, la 5e raquette mondiale, qui est devenue la première espagnole à remporter le Masters WTA en battant l'estonienne Annette Kontaveit en deux manches bien convaincantes. J'ai vu le match. Alors Muguruza a soulevé la prestigieuse coupe Billie Jean King en présence de cette dernière, d'ailleurs, qui lui a remis le trophée. dans une ambiance festive à la mexicaine sous les chants des mariachis. Alors je suis et c'était le dernier tournoi majeur de la saison tennis. Le prochain rendez-vous est en l'Open d'Australie en 2022.
Oh oui.
Chez les
oui.
hommes, ça continue. Ça y est, ils sont aussi en train de finir leur saison. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'Allemand Alexander Zverev a obtenu sa place dans le carré d'as. Il va d'ailleurs rejoindre, bien sûr, le numéro 1 mondial Novak Djokovic en demi-finale. C'est contre lui qu'il va le jouer. Et on attend le dernier match qui va se jouer demain pour savoir quel sera l'adversaire de Medvedev. Donc, tout ça samedi, un beau week-end de tennis en perspective. Faut
ça va être beau. Ça va être vraiment beau.
C'est vraiment beau en couleur. Voilà,
ouais.
Pour clore la saison. Donc, c'est ce week-end. Maintenant, pour la petite histoire et finir ma chronique d'aujourd'hui.
Oui.
Il y a quelque chose d'inquiétant, Fulgence. On reste dans le tennis. Je ne sais pas si tu connais en ce moment ce qui se passe, mais où est passée la championne de tennis chinoise, Peng Shuai?
Elle a disparu, paraît-il. Oui.
Alors, c'est l'ancienne numéro 1 mondiale en double âgée de 35 ans. Elle a gagné en double, donc Wimbledon et Roland-Garros.
Oui.
Elle a accusé donc sur les réseaux sociaux le 2 novembre l'ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli, qui a été, donc, de 2013 à 2018, l'un des 7 hommes politiques les plus puissants de Chine, imagine.
Il a été sa maîtresse.
Il l'a contraint à une relation sexuelle, donc il l'a agressé d'abord sexuellement, avant de l'obliger à devenir sa maîtresse.
Oui.
Alors, cette accusation a été publiée le 2 novembre sur l'équivalent de Twitter en Chine et Weibo.
Oui, et quelques jours plus tard, elle a disparu de la circulation.
Le tweet a disparu. Elle a été vite bloquée de toute référence à ce message. Personne ne pouvait accéder à ce message, mais malheureusement, ou heureusement pour elle, plutôt, plusieurs personnes l'avaient déjà relayé.
C'était déjà relayé. Oui.
Alors, depuis, la joueuse n'a plus jamais communiqué.
Elle n'a pas donné signe de vie.
Et des joueuses, beaucoup de joueuses, ont alerté la WTA pour prendre en main les choses. Tu comprends, là? Pour poser des questions, demander où est-ce qu'elle est. Et donc, entre autres, Chris Evert.
Est-ce que ça te surprend, Myriam, ça? Je savais qu'ils allaient réagir. Parce que ce monsieur, la deuxième personnalité du pays.
Hein. Exact.
Voilà.
Ce qui est surprenant, Fulgence, c'est que c'est quand même une personne célèbre, tu comprends? On ne peut pas faire disparaître une personne célèbre. La preuve, c'est que ça soulève maintenant une enquête.
Mais je suis désolé, mais la Chine, qui va aller lever le bout du doigt, on va bien crier ici, dans nos salons, mais...
Mais c'est ça, d'ailleurs, je vais conclure un peu sur ça, parce que ce matin, figure-toi qu'il y a un courriel, ils lui ont fait écrire, je pense, la WTA a annoncé ça, ils lui ont fait écrire, je pense, un courriel de force, urgence. Un courriel suspicieux attribué à la championne de tennis est apparu ce matin. Il augmente encore plus l'inquiétude sur la joueuse, selon la WTA, parce qu'on dirait que ce n'était pas ses mots, il ne s'est rien passé, je n'ai jamais dit ça, c'est une erreur, elle a écrit « Je vais bien ».
Ça me fait penser à l'opposant, au jeune opposant youtubeur ukrainien.
Oui.
Oui. Ah non, ces régimes, bon, c'est une partie.
Alors, j'ai interrogé à plusieurs paroles parce que les gens ont commencé à l'enquête. Comme je t'ai dit, la WTA a lancé une enquête. Les porte-paroles du ministère chinois des Affaires étrangères ont dit tout ignorer de cette affaire. Imagine. Et se sont refusés à tout commentaire.
Myriam, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous disent?
Ils ont dit que ce n'était pas un dossier diplomatique, que personne n'a à devoir leur demander des comptes. Voilà.
Ouais, mais c'est clair. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné, non? Chez eux.
Écoute, j'espère qu'en tout cas, cette championne. Moi, je la connais, hein, de visage et tout, la chinoise Peng Shuai. J'espère qu'elle lui est
arrivée. Ouais. J'ai lu ça, j'ai dit. Tiens, ouais. Elle a mis sa vie en danger, hein, ça, il faut le dire.
Là, toutes les joueuses, hein, en ce moment, sont en train d'écrire sur leur Twitter qu'il faut la chercher, mais où est Peng Shuai? Alors, nous aussi, on la cherche, Fulgence.
Oh,
jamais tu vois quelque chose.
À notre manière. Oh, non.
Il faut en parler. Ça peut pas passer comme ça. Voilà, je conclue sur, malheureusement, cette petite triste histoire cette fois-ci. Mais c'est la vie.
C'est la vie. On fait avec, et puis bon, ben, on va en parler jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée, quoi.
Voilà.
Alors, merci à toi, Myriam.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée.
Bye.
Ça, c'est Young the Giant, Superposition. Voilà. Hier, je suis allé voir la pièce de théâtre de Sylvie Moreau, Dans la tête de Proust, pastiche, collage et fabulation. Ça démarre hier, hein, c'est jusqu'au 20 novembre, à la salle Ludger Duvernay, au Monument National, qui est situé au 1182 boulevard Saint-Laurent. Voilà. À Montréal, bien sûr, texte et mise en scène de Sylvie Moreau. Je vous le dis, voilà, moi, j'ai adoré, c'est beau, c'est très, très, voilà, elle a à sa sauce, hein, à sa manière, les 3000 pages des livres de Marcel Proust, faut le faire, c'est de 20h, c'est 1h30, hein, 20h, ça commence, à 1h30, plus tard, c'est fini, quoi. Voilà, Sylvie Moreau, qui a étudié le mime à l'école Omnibus d'ailleurs, et c'est une amoureuse de Marcel Proust, littéralement parlant bien sûr, c'est qui a fait les textes et puis la mise en scène, ouais, et puis l'interprétation et puis scénographie aussi, ouais, elle a fait ça, c'est pas seulement. Alors, quels sont ces 3000 pages de profondeur? Quels sont les comédiens qui étaient à ses côtés? Il y avait Jean Asselin, ouais. Et Nathalie Claude, et qui encore là, Pascal Contamine, et ensuite Brian Morneau. Voilà, c'était un bijou pour moi, c'est comme ça. Je dis merci à Sylvie Moreau, merci à toute l'équipe derrière cette pièce. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore leur billet, ça a commencé hier, ça va finir le 20. Allez, réservez votre billet en ligne, ou vous pouvez payer sur place là-bas si je ne me trompe pas. Allez voir cette pièce de Sylvie Moreau. Vraiment, c'est du bonbon. Merci à l'attachée de presse, Lison. Voilà, m'a permis d'aller voir ce spectacle. D'ailleurs, et je vous le dis sincèrement, toute l'équipe de Domnibus qui est derrière aussi, tout ça, c'est le corps, le théâtre du corps. Ouais. C'est. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai adoré. Je ne regrette pas d'être rentré un peu tard, quoi. Ah, et puis aujourd'hui jeudi à 17h, où ça se passe d'ailleurs, ce truc, à la librairie Gallimard, Montréal, boulevard Saint-Laurent, 3700. Oui, discussion autour du livre Le racisme. Les racistes n'ont jamais vu la mer. Oui. Ça finit à 18h30 par là. Oui. Voilà, donc il faut que j'en paie. Il y a des gens qui sont en route, qui vont passer par là. Allez-y faire un petit saut là-bas, comme on le dit. Mais dans le Crier et la Gallimard qui font c'est une heure d'événement. Hein. Et quelle maison d'édition, c'est édition Mémoire dans le Crier d'ailleurs. Il n'y a pas un seul écrivain. Ils sont deux. C'est Rodney Saint-Éloi et il y a Elgat Ban. Voilà, c'est les deux là qui ont écrit. C'est tout frais, c'est 2021. Voilà. C'est ça, c'est bien ça, les racistes n'ont jamais vu la mer. Je vais te voir si je peux les avoir ici pour parler de ça. On va tout doucement vers la fin de cette première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Michel Asselin, directrice générale de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. C'est bien ça, c'est dans le cadre, comme je le dis... des journées québécoises de la solidarité internationale qui sont organisées par cette association québécoise des organes de coopération internationale. On va voir la directrice qui va nous donner plus de détails. Restez à l'écoute. On vous revient juste après la petite pause publicitaire.
Le 17-18 avec Fulgence Blas.
Bye. chitama musa ba sezembe Zino mwa opela mrena Ba chitama musa ba chamengane Nirilebeleli lebeleli lihelile Ba chitama musa ba chamengane Darilebeleli lebeleli lihelile Ba chiplesa ba mwe ba chamengane
Makadzi Zivouya avec la complicité de John Dillinger, notre invité déjà au bout du fil, c'est la directrice générale de l'association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI, qui est, voilà, pour nous parler, c'est le comité organisateur, bien sûr, des journées québécoises de la solidarité internationale. Voilà, et puis la directrice générale, Michel Asselin, qui va nous parler de ça. C'est quoi d'abord ces journées internationales? Voilà, de cette journée québécoise de la solidarité internationale, pour qu'on sache un peu au moins quels sont les événements partout au Québec, différents paliers de la population ou bien de ces organismes qui sont chargés de ça. Bonjour Michel Asselin.
Bonjour, bonjour. Très heureuse d'être avec vous ce soir.
Merci d'avoir le temps de venir nous parler de ces journées internationales, de ces journées québécoises de la solidarité internationale. Comment allez-vous?
Très bien, très bien. Et ces journées, elles battent leur plein présentement.
Oui.
Et donc, il y a des activités un peu partout au Québec, dans plusieurs régions. Et ce sont des activités qui vont à la rencontre de nos concitoyens et concitoyennes.
Oui.
Où on parle des grands enjeux de la solidarité internationale. Mmh. Et particulièrement, nous interpellons la population du Québec parce que on croit qu'on doit se mobiliser dès maintenant pour transformer le monde. Nous sommes en pleine pandémie. Bien qu'au Québec, on semble aller vers d'autres formes d'expression de cette pandémie qui nous a isolés, qui a été si difficile, particulièrement pour nos aînés. Mais
oui.
Faut pas oublier que partout dans le monde, on fait face à cette pandémie et particulièrement dans la grande majorité des pays du Sud,
oui.
On n'a pas eu accès aux vaccins.
Oui.
Même que nous, on a parlé d'un apartheid vaccinal.
Oui, j'aime bien cette expression. C'est triste, mais c'est une réalité.
Oui,
oui, on peut parler.
C'est un exemple de ce qu'on veut discuter.
Oui.
Et on a ciblé 10 grandes pistes d'action à discuter.
Oui.
Je vous ai interrompu parce que je sais que j'arrive plus de temps et j'ai tellement de choses à vous dire.
Oui, j'aurais dû vous consacrer j'aurais dû passer toute l'émission avec vous dans ce cas-là. Non,
mais
j'avais ma chronique sportive.
Vous imaginez, on a tellement de choses à dire.
C'est ça. Non, de toutes les façons, on n'a pas besoin de ces journées internationales, des journées québécoises de la solidarité pour que vous passiez. Nous, vous êtes juste à côté. On est voisins dans l'immeuble en plus.
Mais oui.
Voilà.
Mais oui,
il va falloir passer nous voir de temps en temps quand vous avez des sujets comme ça et puis les sujets vous en avez. C'est pas ça qui vous manque. C'est pour voir un peu l'intervalle, comment on peut s'arranger pour recevoir, pour nous mettre au parfum des nouveautés, des choses qui se passent au sein des organismes que vous dirigez d'ailleurs. Bon, comment est-ce que vous avez arrivé à mettre en relation tous ces organismes dont vous êtes à la tête, disons, et pour pouvoir participer, prendre part à ces journées québécoises de la solidarité internationale? Comment vous avez réussi à les mobiliser? Ou bien comment vous arrivez à les mobiliser chaque année? Parce que c'est un événement annuel.
C'est ça. Alors, je dirais qu'on n'est pas la tête. Nous sommes vraiment un réseau.
Oui.
Et c'est avec nos membres depuis 26 ans qu'on organise les journées. Alors, donc, on est assez rodés et c'est les organismes, en fait, qui organisent des activités qui peuvent se dérouler dans les écoles, par exemple, dans les cégeps ou les universités.
Oui.
C'est hier, j'ai participé à une activité organisée par la Gazette de la Mauricie et qui avait lieu dans un café et qui va donner lieu à un balado. Donc, il y a toutes sortes de formes que ces activités prennent.
Oui.
Et c'est grâce à la mobilisation des organismes qui sont membres de la COSI qui prennent le relais
oui.
et qui élaborent avec nous une programmation aussi variée et importante. Mmh.
Je suis tombé par hasard sur un jeune homme de 19 ans, un Québécois. Ouais. À qui vous avez permis de se rendre à la Coupe 26.
Oui.
Vous savez de qui je parle déjà.
J'ai pas les noms. Vous allez m'excuser, moi j'ai pas la mémoire.
Xavier Corée-Rioux,
oui.
qui a fait son discours le 3 novembre.
Oui.
On va revenir là-dessus. Mais comment l'événement chaque année, est-ce qu'il y a un thème qui est abordé ou bien comment? Bon, cette année on parle beaucoup plus de vaccins, de coronavirus, de changement climatique. Est-ce que chaque année les thèmes sont différents?
Oui. Oui, chaque année, les thèmes sont différents et cette année, c'est « Transformons le monde dès maintenant ».
Oui.
Et je peux vous dire, oui, j'ai parlé de vaccins tout de suite, mais on parle de la lutte contre l'évasion fiscale. On parle d'encourager l'agroécologie, le commerce équitable.
Oui.
On parle de combattre les racines profondes de la violence et de la discrimination contre les femmes.
Oui.
On parle aussi de respecter, de protéger les droits des personnes migrantes et réfugiées. On parle aussi du fait qu'on doit à tout prix mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones,
oui.
lutter contre le racisme systémique.
Oui.
Vraiment,
vous touchez à tout.
10 grands chantiers.
Vous touchez
Alors,
à
donc,
tout.
Ben, on n'a pas le choix parce que pour transformer le monde, y a divers enjeux qui nous interpellent.
Oui.
Et comme on est un très grand réseau, on est 66 organismes dans 13 régions du Québec,
oui.
ben, plusieurs organismes touchent un volet plutôt particulièrement
oui.
l'éducation,
oui.
par exemple, la santé
oui.
ou l'agriculture. Donc, ça nous permet d'avoir cette vision globale des grands chantiers que nous devons mener, que nous menons déjà et pour lesquels on veut rencontrer la population et échanger avec vous sur ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire ensemble mm-hmm. pour accélérer ces transformations.
Mm-hmm.
Et les Journées québécoises, c'est aussi une occasion de poser un geste citoyen. Et donc, nous, on va particulièrement cette année, c'est une action qui va se poursuivre jusqu'à à la fin de l'année, là, en mars, mais on veut interpeller les
parlementaires. Ah bon, c'est pas juste le mois de novembre?
Oui, nos activités, c'est le mois de novembre, mais on va continuer à animer d'autres activités.
Okay.
Par exemple, dans quelques semaines, on va souligner les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes.
Oui.
On va souligner la Journée internationale des femmes, le 8 mars. On a beaucoup d'activités.
Beaucoup d'activités.
Et, on est en action. Souvent, on prend une action qu'on porte pendant plusieurs mois pour qu'elle ait une plus grande portée.
Voilà, on fait une petite pause musicale et puis on vous reçoit juste le temps pour vous permettre de souffler un peu. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci.
De rien.
Fais pas trop mal. Si ça te convient, on fera comme si on n'existait pas. Si ça te dit bien, oublie ce qui est normal. On fera mine de rien, se cachant sous les draps. Loin du monde entier,
prends le temps de guérir en attendant. Il ne faut pas trop réfléchir si on change tous nos plans. Si on se part dans l'avenir, on n'a qu'à faire semblant, au moins on pourra repartir. Loin du monde entier, où tes mots sont protégés contre les cœurs brisés, où on peut toujours se retrouver. Si tu veux tout savoir de moi, approche-toi, je veux tout te dire.
Céleste Lévy, si tu veux tout savoir, on a notre invitée, Michèle Asselin, la directrice générale de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, pour nous parler des journées québécoises de la solidarité internationale. Donc c'est son organisme qui coordonne tout ça avec les organismes membres de l'association, bien sûr. Et voilà, un sujet d'actualité, le climat. Est-ce que vous êtes déçu?
Oui.
De la COP26?
Oui. En fait, déçu...
ou bien, est-ce que vos attentes... en gros, c'est ça, je voulais savoir. Est-ce que vous êtes... Il y a une déception quelque part, ou bien vous vous êtes dit, après le résumé, après le communiqué final, mieux vaut ça que rien du tout?
Ben... Oui, certainement.
Oui.
Et je pense qu'on a réussi à avoir cet accord parce que la société civile qui était présente s'est extrêmement mobilisée.
Oui.
Et a fini par convaincre les différents États qu'il fallait arriver à une entente.
Mmh.
Mais je vous dirais que la déception qu'on vit actuellement ne fait pas en sorte qu'on va baisser les bras. On commence dès maintenant à préparer la prochaine COP.
Oui.
Et nous, on doit la préparer au Canada,
oui,
avec le gouvernement du Canada et avec le gouvernement du Québec.
Mm-hmm.
Y a des groupes écologistes au Canada et au Québec qui ont été très actifs et nous allons appuyer leurs actions. C'est un peu la perspective de travail de la COSI,
oui,
pour accroître notre influence et... arriver à faire une différence, ben on travaille avec les mouvements sociaux.
Mm-hmm.
Et donc je peux vous dire que on va travailler dès maintenant à nous assurer que la voix du Canada et du Québec va être plus forte et pour la prochaine COP que nous puissions bâtir un consensus d'engagement,
oui,
plus important, parce que là, au lieu de diminuer les gaz à effet de serre et le réchauffement de la planète, on s'enligne vers une poursuite de l'augmentation. Et là, peu importe où on habite sur cette planète dont on n'a pas d'autres...
On est tous dans le même bateau.
On est tous dessus.
Oui.
Mais par contre, il faut bien prendre conscience que le Canada est un grand pays polluant.
Oui.
Et c'est le pays du Sud qui en subit les plus grandes conséquences.
Oui, d'ailleurs, je suis allé m'amuser un peu sur votre page, les quiz.
Oui,
c'est
important.
Ah, je me suis régalé. Ah, j'ai beaucoup adoré. Oui, le Canada. Et
vous avez appris des choses?
Oui, j'ai appris des choses. Oui, oui, non, c'est très nourrissant, c'est très, c'est intéressant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, allez-y sur le site de l'association de la COSI et allez-y voir là-bas les quiz. Là, c'est vraiment, c'est instructif. Hein, ça, il faut le dire. C'est pas les quiz qu'on connaît pour s'amuser quelque part là. Non, c'est j'ai appris des choses. Oui. Ouais.
Donc, c'est, vous voyez, c'est une des formes d'activité qu'on propose dans le cadre des Journées québécoises de solidarité internationale. On tente de présenter une foule de ressources, d'activités. Oui. Il y a plusieurs bibliothèques à travers le Québec par la participation de nos membres qui font des présentations ou vont animer des activités.
Oui.
Alors, c'est là qu'on rencontre des personnes qu'on ne rencontre pas habituellement. Et je pense que notre apport dans la société québécoise est majeur parce que nous, on a un regard sur ce qui se passe dans le monde qu'on doit partager avec nos concitoyens et concitoyennes parce que malheureusement, ces informations-là, elles sont peu couvertes par les grands médias de masse.
Oui.
Bien sûr, on donne ces informations régulièrement dans nos médias sociaux, mais on n'informe jamais suffisamment des enjeux. Et je peux vous dire que les personnes que nous rencontrons sont vraiment très intéressées par ce qui se passe.
Parce qu'il se passe.
On partage la même inquiétude et on a besoin de savoir, dans cette inquiétude face à notre monde, d'entendre qu'il y a des mobilisations, qu'il y a des jeunes mobilisés partout dans tous les pays qui sont en train de faire la différence.
Oui.
Et j'étais très fière de notre délégation de jeunes.
Oui.
Et nous aurons une prochaine délégation de jeunes.
Je vous dis bravo, merci beaucoup, parce que ce jeune Xavier Coursier-Riou qui a adressé un message au Premier ministre Legault, hein?
Oui.
Ouais, c'est
un vrai jeune là. C'est pas...
19 ans, c'est grâce à vous, c'est grâce à l'ACOSI qu'il a pu se rendre là-bas à la Coupe 26.
Oui.
Merci à vous.
Oui, oui.
Merci à vous, Michel Asselin.
Il a très bien pris la parole, on était très fiers.
Oui. Alors, un dernier mot pour la dernière minute qui nous reste.
Ben,
la prochaine fois, je vais vous garder pour toute l'émission.
Oui, alors, je vous invite, vos auditeurs, à aller sur notre site web et d'aller visiter la page JQSI.
Oui.
Et vous pouvez vous abonner à notre infolettre aussi.
Oui.
Et puis, j'espère que vous aurez l'occasion d'aller à une de nos activités. Ou sinon, à votre exemple, testez vos connaissances et jouez avec notre quiz.
Oui.
Faites-le avec vos enfants. Avec vos proches, c'est pas très long et c'est simple mais percutant.
Oui, c'est là que j'ai appris que la petite agriculture familiale nourrit 80% de la population mondiale.
Quand même, hein?
Quand même, oui.
Ouais.
Et puis qu'en septembre 2021, seulement 2% de la population des pays à faible revenu avait reçu au moins une dose de vaccin contre 65% dans les pays à revenus élevés.
C'est ça qu'on appelle une apartheid vaccinale.
Voilà.
Puis, je suis pas en train de dire qu'on doit se sentir coupable d'avoir eu un vaccin. En fait, il faut que les brevets des vaccins soient levés parce que dans plusieurs pays au sud, on est capable de produire des vaccins.
Voilà.
Il faut pas oublier que nos gouvernements ont financé les compagnies pharmaceutiques pour qu'ils arrivent à produire des vaccins aussi rapidement.
Merci beaucoup, Michel Asselin. Bonne journée québécoise de la solidarité internationale. Je répète, c'est la directrice générale de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Bonne soirée à vous et à bientôt.
Merci, bonne soirée à vous aussi.
Au revoir.
respect. Qui tous les temps t'y sentis pas baisé. Divi Kaya fait santé. Jodi, pour qui la gaieté régnait dans tout quartier. Parce que la bétoine n'a pas hésité.
Chalkirin, Sega Dansil, Racine des Tatanes. Voilà, on a fini comme ça l'émission d'aujourd'hui. Merci à Myriam Larache qui va nous parler du sport. Et puis merci à la directrice générale de l'Association québécoise des organes de coopération internationale, Michel Asselin. Merci à toi, Maurice Bolduc. Et merci à nos auditeurs et auditrices. Je vous dis ciao, à demain.